Les deux bouts de la corde, par Richard Keller, chapitre 8. Ce matin-là, le palais de justice vivait une grande effervescence. Il y avait une session de la cour d'assises. De nombreux policiers étaient déployés, armés de fusils et revêtus de gilets pare-balles. Parmi les audiences programmées, se tiendrait celle d'un pédophile récidiviste. Condamné il y a quelques mois par une autre cour, il avait fait appel et le deuxième procès se déroulait ici. De nombreuses associations manifestaient aux environs du tribunal avec des banderoles et un mégaphone. Elles s'adressaient à l'opinion publique en s'efforçant de médiatiser au maximum cette affaire. L'homme était éducateur et pendant des années, il avait bénéficié de protection. Face à la pression de l'opinion, ses supérieurs l'avaient lâché. Il espérait faire diminuer la première peine, qui était de 30 ans, dont 18 années incompressibles. Le chef Sagol se disait que la justice devrait surtout penser aux victimes. Ses plaies sur de jeunes adolescents se refermeraient-elles un jour? Il en doutait. Il attendait en haut des escaliers lorsqu'il vit arriver une vieille connaissance. L'homme arrivait dans sa direction. Le chef Sagol le héla. « Jean-Pierre !» L'inspecteur principal Jean-Pierre Boucher tourna la tête à sa gauche et se dirigea vers le chef Sagol. La poignée de main fut chaleureuse. « Quel bon vent t'amène chez nous ?» lui demanda Sagol. « Oh, tu sais, je ne crois pas que ce soit un bon vent, mais plutôt une bourrasque judiciaire. J'ai enquêté sur l'affaire du pédophile et, à ce titre, je suis cité comme témoin à charge. Et toi, que deviens-tu, cher ami ?» Je suis sur une enquête peu banale. Un couple de personnes âgées retrouvées pendues à une corde. Tu me diras, jusque-là, c'est de la routine. Cependant, c'est la même corde qui a servi en simultané. L'homme et la femme se balançaient chacun à un bout. Le légiste a conclu à un meurtre. Pour couronner le tout, le juge d'instruction se nomme Julie Silowski. J'ai rendez-vous avec elle à 9h. Je te souhaite beaucoup de courage. L'inspecteur principal Boucher n'en dit pas plus. Les deux hommes s'étaient compris à demi-mot. Sagol savait qu'il ne s'engageait pas dans une partie de plaisir. Il demanda à Boucher pendant combien de temps devait-il assister au procès. Au moins 4 à 5 journées. Écoute, j'aimerais bien que nous passions une soirée ensemble à ta convenance. Je te donne mon numéro de portable, appelle-moi et nous organiserons ça. L'inspecteur principal Boucher prit la carte et dit à Sagol « Je ne te téléphonerai pas. Nous décidons tout de suite. Que penses-tu de ce soir ?»« C'est d'accord, à 20h devant le Café Majestic, » répliqua Sagol. « À ce soir, cher ami, et je croise les doigts pour toi. » Boucher joignit le geste à la parole. Pendant que l'adjudant-chef Sagol et l'inspecteur principal Boucher conversaient, les trois autres gendarmes, arrivés depuis quelques secondes, attendaient sur le côté droit de l'édifice. Lorsqu'ils virent les deux hommes se dire au revoir, ils rejoignirent leur chef. Ils saluèrent en chœur d'un bonjour chef, et Sagol fit de même avec un bonjour messieurs. Je viens de retrouver un vieil ami, l'inspecteur principal Jean-Pierre Boucher, qui va témoigner dans le procès du pédophile. Maintenant, en route vers Madame Julie Chilowski. Le gendarme Gilles plissa le front et ne dit mot. Le bureau du juge Silowski se trouvait proche de l'entrée. Les quatre hommes pénétrèrent dans le hall. Un tableau, posé au milieu, permettait aux visiteurs de se diriger. Ils obliquèrent à droite dans un court couloir. Sur une porte en bois, qui sentait l'encaustique, une plaque en plastique blanc et lettres dorées indiquaient « Julie Silowski, juge d'instruction ». Le chef Sagol frappa. Une jeune femme vint ouvrir et demanda qui elle devait annoncer. « Je suis l'adjudant-chef Sagol et j'ai rendez-vous avec le juge Silowski. » Une voix au fond de la pièce déclara « Faites entrer, Stéphanie !» Madame Julie Silowski était assise derrière un bureau moderne couleur acajou. Un écran d'ordinateur masquait son visage. Elle se leva et se dirigea vers le chef Sagol. Elle lui tendit la main, une main molle, tout le contraire de ce qu'aimait le chef. Il n'attendait pas de virilité de la part d'une femme. mais de l'énergie, oui. Madame Silowski retourna derrière son bureau. Elle ne salua pas les trois autres gendarmes. Le chef Sagol prit sur lui et s'adressa à Madame Silowski. « Je vous présente mes collaborateurs. » Il déclina le grade et l'identité de chaque gendarme. À l'énoncé de leur nom, ils claquèrent des talons et firent un salut militaire. Le ton était donné. Julie Silowski paraissait fatiguée. Elle attendait tout simplement un heureux événement. Le chef se dit que la naissance d'un enfant était une bonne nouvelle. Il donnerait à cette femme plus d'humanité. Il se hasarda à faire une allusion à la grossesse de son interlocutrice. « J'espère, madame, que l'attente n'est pas trop difficile, que le métier ne vous use pas trop. » Madame le juge Silowski resta de marbre et répondit d'une phrase lapidaire. « Je suis là, monsieur Sagol. » « Maintenant, monsieur, je vous demande de me faire une synthèse par écrit de l'affaire. Je l'attends impérativement sur mon bureau lundi matin. Pour la suite de l'enquête, je veux un compte-rendu journalier de l'avancement des opérations et une synthèse hebdomadaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie, car j'ai un autre rendez-vous. » Les quatre hommes sortirent du bureau en faisant le salut militaire et sans prononcer un seul mot. L'entretien avec Madame le juge d'instruction prit fin à 9h10. Le chef Sagol reprit les choses en main. « Je vous offre un café, messieurs, ça nous changera les idées. » Au café de la justice, ils ne trouvèrent pas de table libre. Ils se mirent au comptoir et ils partirent tous d'un fou rire libérateur. Le gendarme Liard, peu loquace habituellement, mimait à la perfection Julie Silowski. Les autres étaient pliés en quatre. Le chef Sagol fit un peu de pédagogie en expliquant à ses collègues que face à chaque situation, face à chaque individu, il convenait de tirer des enseignements. Ce matin, Madame Silowski leur avait dispensé un cours de dédain. Elle avait même poussé le mépris à un niveau rarement atteint. « Messieurs, nous allons simplement lui donner une leçon de professionnalisme et de cohésion. C'est de cette manière-là que cette personne glissera sur le miroir de notre indifférence. Il la renverra à sa propre image et cela lui donnera à réfléchir. » Le chef d'habitude restait sur la réserve, mais il avait rapidement réfléchi à la situation. Il se disait que s'il restait indifférent, les autres l'assimileraient au juge Silowski. Une saine collaboration entre tous nécessitait une clarification de sa part. Il décida pour une fois d'exprimer son rejet de la méthode Silowski. Il y mit quelques formes, mais aucun ne fut dupe de ce qui se cachait derrière les formules et les mots. Le chef Sagol exécrait Madame le juge Julie Silowski et ça se voyait. N'ayant pas prévu un contact d'une aussi brève durée, le chef Sagol n'avait pas envisagé d'autres tâches pour cette journée de vendredi. Il emmena donc toute la troupe dans les locaux de la brigade de recherche. « Nous ferons un travail collégial. Nous allons récupérer les casiers judiciaires des personnes qui font l'objet de nos prévisions d'activité pour la semaine prochaine. Ce sera du temps de gagner. » Le siège de la brigade de recherche était établi dans le centre-ville, sur le même site que la brigade de gendarmerie. La caserne datait du début du XIXe siècle. Elle venait d'être rénovée. Les bâtiments étaient inscrits au registre supplémentaire des monuments historiques. Les locaux étaient spacieux et assez neutres au niveau décoration. Le chef réserva une salle pour la journée en apposant sur la porte son nom, suivi de la mention « Ne pas déranger ». Le hasard faisant bien les choses, il y avait quatre ordinateurs reliés en réseau. Cela permettait à chaque gendarme d'interroger le fichier central du casier judiciaire à Nantes. La procédure d'accès aux archives du centre était complexe, avec de multiples verrous. Le chef s'était connecté avec son mot de passe personnel qui lui permettait d'obtenir un code pour la journée. Ainsi, il pouvait effectuer plusieurs connexions simultanées. Il le communiqua aux autres et chacun s'affaira sur sa machine. À 12h30, ils déjeunèrent au mess. C'était une cantine améliorée. N'oublions pas qu'il s'agissait d'une caserne. Nos Pandores retrouvèrent d'autres collègues avec plaisir. La gendarmerie est une grande famille. Le menu était correct, avec un buffet d'entrée et trois viandes au choix. À la fin du repas, le gendarme Gilles proposa d'aller prendre le café à l'extérieur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il connaissait un pub. Lorsqu'il n'était pas en service, il allait y boire un verre en écoutant de la musique irlandaise ou brésilienne. Cela dépendait de la programmation du patron. Le lieu plut tellement au groupe que nos gendarmes furent de retour à la brigade de recherche à 14h45. Ils se remirent immédiatement au labeur. À 16h, le chef Sagol demanda si tout le monde avait terminé. Ils avaient tous obtenu les informations sur le casier judiciaire des protagonistes de l'affaire. « Alors, messieurs, la pêche a-t-elle été bonne ?» Liard, le premier, parla du casier judiciaire de M. Seigle, le transporteur à la retraite. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, pour voie de fait sur un agent de la force publique. « Tiens donc, dit le chef. C'est passionnant ce que vous nous dites, Liard. C'est tout ?»« Oui, chef. » Le nordiste prit la parole. « Je suis désolé, mais je n'ai rien trouvé. » Hormis qu'il manque 8 points au permis de conduire de M. Montfort. Ok, et vous, Gilles? Le professeur plombier Robion a été trouvé en possession de marijuana en 94. Il a bénéficié du sursis sur une condamnation à 2 ans de prison. Je n'ai pas d'autres éléments. Merci, messieurs. Je n'ai rien trouvé, mais nous avons gagné un temps précieux. Maintenant, je vais vous souhaiter un bon week-end et nous remettons ça lundi à 8h. Ils se saluèrent et prirent congé. Gilles partit de son côté et les deux autres retournèrent ensemble à leur brigade. Il était presque 20h lorsque l'inspecteur principal Boucher arriva à pied devant le café Majestic. Il avait pris une chambre dans un hôtel voisin car il ne voulait pas rentrer au milieu de la nuit. Avec ce diable de Sagol, il n'allait pas expédier le repas et se dire au revoir. En bon épicurien, il savait jouir des bons moments de la vie. Il vit arriver Sagol sur le trottoir d'en face. Il avait revêtu un pantalon de velours beige, un sweatshirt de teinte semblable et un veston marron clair. Une paire de mocassins marron complétait la tenue. Arrivé à sa hauteur, Boucher lui dit « Tu as quitté ta deuxième peau, c'est la mue, cher ami ?»« Eh oui, Jean-Pierre, si je te dis que je me sens dénudé, tu me crois, n'est-ce pas ?»« Pour sûr que je te crois, Léo !» Comme si tu affirmais que tu vénères l'antéchrist. Boucher lui dit qu'il était confus. Il aurait pu convier Madame Sagol à leur soirée. Je te rassure, Jean-Pierre, elle n'était pas disponible ce soir. Elle allait écouter de la musique brésilienne. Il y a un groupe originaire d'une favela de Rio qui fait le tour de l'Hexagone en faisant un spectacle autour de la bossa nova et de la capoeira. Elle y va avec 2 copines. Ah, les femmes et la danse, les femmes et la musique. « Elles adorent, » ajouta Sagol. « Eh oui. Alors, que nous as-tu réservé comme surprise ce soir? Je couche ici, c'est quartier libre pour moi. »« Pour moi aussi, » rétorqua Sagol. « Je t'emmène dans la vieille ville. Tu vas faire une petite visite touristique. » Boucher le reprit. « Tu as dû faire un lapsus, Léo. Nous avions envisagé une visite gastronomique. »« C'est bien ce que je t'ai dit. » Nous commençons par les vieilles pierres et après, nous verrons. Boucher se laissa guider par son hôte. Il apprécia les ruelles étroites qui ressemblaient aux traboules, si chères aux Lyonnais. Elles avaient un petit côté florentin en plus. Ils arrivèrent sur une place où une fontaine lançait des éclairs par la bouche du lion qui dominait l'édifice. Les différentes lumières projetées sur l'eau, jaillissant de la bouche du fauve, était d'une beauté et d'une originalité rares. L'ingénieur éclairagiste avait réalisé une prouesse. Les gouttelettes faisaient parfois penser à de petits fragments d'arc-en-ciel. C'était un spectacle féerique. Boucher apprécia, en déclarant que le guide Sagol méritait une citation dans le guide du Routard. À l'angle de cette place se trouvait le restaurant L'âme du palais. C'était leur point de chute. Les deux hommes pénétrèrent dans l'établissement. Ils furent pris en charge par une hôtesse vêtue d'un tailleur bleu marine sur un chemisier blanc. Sagol avait remarqué que les 2 derniers boutons du col n'étaient pas fermés. Il laissait voir un caraco blanc. « Cette jeune fille est élégante, se dit-il. » Elle demanda s'ils avaient réservé et consulta la liste posée à sa droite sur un guéridon. Boucher, enfin limier, appréciait l'organisation pour accueillir les clients avec le sourire et le professionnalisme nécessaire. Elle leur souhaita la bienvenue dans l'âme du palais et leur proposa de mettre leurs effets au vestiaire. Chacun confia son vêtement. Elle les pria de la suivre dans le salon pour l'apéritif. Ils remarquèrent qu'aussitôt, une autre hôtesse prenait le relais. Ils longèrent un couloir pendant quelques mètres, descendirent trois marches, et l'hôtesse les amena en face d'une grande cheminée où un feu de bois crépitait. Sagol se dit qu'avec le volume de la pièce et la disposition de l'âtre, toute la chaleur devait partir dans la nature. Boucher pensait la même chose. Ils tombèrent au fond de deux fauteuils club en cuir roux. Les deux hommes étaient convaincus qu'ils s'approchaient du bonheur. L'hôtesse demanda ce qu'ils désiraient boire. Ils se concertèrent et commandèrent deux chivas de 25 ans d'âge. Un pianiste jouait des mélodies jazzy. Ils trinquèrent et portèrent à leurs lèvres le divin breuvage. Sagol partit dans une envolée lyrique. « Mon ami Jean-Pierre, Dieu a inventé le chivas, la bonne chère et la bonne chère. Il a fait une omission. Il ne nous a pas précisé dans quel ordre. Nous en délecter alors, nous faisons de notre mieux. » Boucher rit de bon cœur et dit « Contrairement au PMU, l'ordre importe peu, pourvu qu'on ait l'ivresse. » C'était uniquement un bon mot, car les deux fonctionnaires savaient qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Ce soir, ils flirteraient avec la ligne, mais ne la dépasseraient pas. Ils croquèrent quelques amuse-bouches, mais ne reprirent pas de whisky. L'hôtesse les confia au chef de rang, qui les plaça confortablement dans un coin de la salle à manger. La pièce était remplie, mais les deux hommes ne s'attardèrent pas sur les clients. Le décor était sobre. Le carrelage, couleur brique flammée, était composé de dalles séparées par des croisillons en chêne foncé. Le sol faisait penser à une salle de château Renaissance. Les murs étaient en grosse pierre apparente, avec des appliques en fer forgé de style mauresque. Des tentures de couleur vert bouteille entouraient chaque ouverture. Le plafond était assez bas et voûté. De fausses colonnes donnaient l'impression de soutenir les arches. Le mobilier était en bois massif de style Louis XI et les chaises massives s'avéraient confortables. Le maître d'hôtel les rejoignit et Léo Sagol lui demanda ce qu'il avait à proposer ce soir. « Nous avons une suggestion de menu tout à fait originale. » Il attendit afin de mesurer l'intérêt suscité par son propos avant de continuer. Les deux hommes étaient déjà séduits. « Messieurs, nous avons en entrée du chèvre chaud, au thym sur un lit de salade rousse, au vinaigre balsamique et huile de noix. « Continuez, je vous prie, » lui signifia Boucher. Enfin épicurien, il voulait juger de l'équilibre du repas. En seconde entrée, je vous soumets le croustillant de fruits de mer et de légumes étuvés au gingembre avec de la bisque de crevette. « C'est bien, mon ami, » souffla Sagol. « Notre plat est un filet de bœuf aux morilles et porto blanc. »« C'est parfait, » dit Boucher. « Bien entendu, il y a l'assiette de fromage et un dessert tout à fait sympathique, un soufflet glacé au drambuie. » Le maître d'hôtel était figé en attendant la décision des deux compères. Sagol prit le premier la parole. « Cela me paraît alléchant. Mais au fait, d'où vient votre drambuie ?» Boucher et le maître d'hôtel n'était pas dupe. Sagol voulait savoir ce qu'était le drambuie. Afin que la réponse soit satisfaisante et que son client ne perde pas la face, il donna une explication détaillée aux deux hommes. « Nous ne servons que le meilleur drambuie d'Écosse, élaboré avec du miel de bruyère, sélectionné rigoureusement, et du blended scotch de 12 ans d'âge. » Sagol adressa un clin d'œil à Boucher et déclama « Alea jacta est !» Le sort en est jeté. Le maître d'hôtel les remercia et passa le relais au sommelier. C'était un homme d'environ 35 ans. Il avait quelques cheveux noirs sur un crâne bien dégarni. L'air jovial, il avait une tête de bon vivant. Il demanda aux deux convives s'ils avaient une idée sur les mariages possibles avec leur menu. Sagol lui demanda de les aiguiller vers le paradis. « Si c'est un plaisir du palais, n'en perdez pas votre âme, ce serait ennuyeux pour vous. » Le serviteur de Bacchus ne saisit pas toute la subtilité de l'allusion à l'enseigne « l'âme du palais ». Seul Boucher avait percuté sur l'humour de son ami. Le sommelier proposa un blanc de Bourgogne pour les entrées et un côte rôti pour accompagner le filet de bœuf et les fromages. Pour le dessert, le drambuie se suffisait à lui-même et il serait inopportun d'y adjoindre un autre alcool. Les deux hommes étaient aux anges et chaque plat leur apporta davantage de félicité. Ils parlèrent de tout et de rien, de leur métier et de leur passion réciproque. Boucher était un spécialiste des plantes de montagne. Il possédait dans son herbier des espèces originaires des quatre coins de la planète. Il était persuadé qu'il y avait encore de nombreuses variétés à découvrir. Sagol, quant à lui, recherchait les vieux disques de chansons réalistes de l'entre-deux-guerres. Il possédait près de 300 galettes, 78 tours, en parfait état. C'était la première fois qu'il en parlait avec un ami. C'était jusqu'à ce jour son jardin secret. Au dessert, ils étaient volubiles. La chaleur du cadre et le bon vin leur procuraient une douce euphorie. Pour déguster le café torréfié par le patron, le maître d'hôtel leur proposa le choix entre le salon non-fumeur ou le fumoir. Les deux hommes ne fumaient plus depuis de nombreuses années. Mais la promesse d'un cohiba annihila toute résistance. Ils avaient envie de se faire plaisir. Le café, servi avec un chocolat noir, était délicieux. L'arôme puissant de l'arabica des hauts plateaux de l'Abyssinie était valorisé par le cacao. Les volutes des cigares dessinaient des arabesques qui montaient au plafond, aspirées par le système d'évacuation de l'air. Les deux hommes acceptèrent un ultime cognac, VSOP, Very Special Old Product, avant de demander l'addition. Il était presque minuit. Léo Sagol se fâcha lorsque Jean-Pierre Boucher sortit son chéquier. C'était lui qui avait proposé le repas et choisi le lieu. Ce serait lui qui honorerait la douloureuse. La note fut salée, mais les deux hommes avaient passé une soirée exquise. Le prix passait au second plan. Ils récupérèrent leurs vêtements et sortirent dans la rue. La fraîcheur de la nuit dégrisa les duettistes. Sagol accompagna Boucher jusqu'à la porte de son hôtel. Les deux hommes se serrèrent vigoureusement les mains et Sagol tourna les talons. Boucher eut toutes les peines du monde à retrouver sa chambre. Dès qu'il eut franchi le seuil et claqué la porte, il s'affala tout habillé sur le lit. Léo Sagol n'était pas mieux. Il se dit qu'il fallait être discret, car si des collègues le voyaient dans cet état, ça ne manquerait pas de jaser à la caserne. Il quitta ses chaussures dans l'escalier et rentra pieds nus dans l'appartement. Il n'arrivait pas à trouver l'interrupteur. Il n'insista pas et réussit, sans lumière et sans bruit, à se glisser jusqu'au canapé. Il se posa là et s'endormit, ses mocassins marrons posés sur sa poitrine. Madame Sagol se leva la première ce samedi matin. Elle s'était réveillée une fois au milieu de la nuit. Son mari n'était pas dans le lit avec elle. Le radio-réveil indiquait 2 heures. Elle pensa que la soirée avec son ami était bien longue et se rendormit. C'est un ronflement dans le salon qui l'intrigua. Passée l'instant de surprise, elle faillit pouffer de rire en voyant son époux sur le canapé avec ses mocassins qui se soulevaient sur sa poitrine au rythme des ronflements. Elle se dit que la soirée avec l'inspecteur principal Boucher avait dû être éreintante. Son Léo n'était pas coutumier de ce genre d'agape. Elle s'approcha de lui et délicatement lui posa un baiser sur le front. Le ronfleur ne broncha pas. Il était presque 9 heures. Madame Sagol se dirigea vers la cuisine et prépara un petit déjeuner pour 2. L'odeur du pain grillé et du café chatouilla les narines du chef Sagol. Il ouvrit un œil et, en se tournant, fit tomber un mocassin sur le tapis. Il prit l'autre chaussure en souriant de l'insolite de sa situation. Il rejoignit son épouse à la cuisine et l'embrassa tendrement. Elle lui rendit affectueusement son baiser. « Et alors, mon Léo, on fait son garnement ?» J'aurais dû te prendre en photo avec tes souliers. Tu n'as pas eu le temps de les poser au bord de la cheminée. Le Père Noël t'aurait mis des bonbons. Elle lui déclara qu'elle avait les moyens de le faire parler. Il admit qu'ils avaient passé une super soirée avec Boucher. Puis, il lui demanda si le spectacle brésilien lui avait plu. Elle lui montra un CD qu'elle s'était procuré à la fin du spectacle. « Tu auras l'occasion de juger, mon chéri. Je peux te dire que cette troupe respirait la bossa par tous les ports. » Ils déjeunèrent ensemble. Sagol n'avait pas très faim. Il rappela à sa femme qu'il serait absent entre 14h et 17h. Il assistait aux obsèques de Toinette et Germain Drochard, dont il avait la charge de l'enquête criminelle. Son épouse lui répondit qu'elle en profiterait pour chiner à la foire à la brocante.